ne peut plus toucher les mains de celle qu'on aime, ni embrasser sa joue, ni embrasser ses lèvres, compter jusqu'à 10. Le soleil, le matin, sur les épaules nues, scintillant la caresse de l'envol, les tourterelles, c'est comme des fleurs pressées autour de l'oreille, des chants, des vibrations disparues, les oiseaux, les tourterelles. Si nous devons être en guerre, c'est contre cette chose qui a fait disparaître les oiseaux.
C'est un extrait d'un texte que vous avez écrit pendant le printemps, pendant le confinement, Lazare. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus ?
C'est de pouvoir échanger des paroles et des souffles et des présences avec des êtres dont on est proche, de pas pouvoir... Cette maladie du souffle, parce que c'est une maladie comme du souffle, de pas pouvoir être en présence d'êtres qu'on aime. Et ça, ça m'a manqué très fort.
Et vous, Penda Diouf, qu'est-ce qui vous a manqué au printemps ?
Je vais rejoindre Lazare, je pense que c'est les présences physiques. On a eu beaucoup de présences, une omniprésence presque par écran, mais pas physiquement, et c'est peut-être ce qui m'a manqué.
Mariama Saïdi ?
Je pense qu'on est bien tous d'accord sur le fait que le physique, c'est quelque chose. Sentir, en fait, qu'il y a une connexion, en fait, je pense que c'est ça qui nous a manqué. Parce que j'avais l'impression qu'on était coupés un peu de tout, mais en même temps, partout, en même temps. C'était assez bizarre. Et je pense que échanger, en fait, avec les personnes, savoir que nos paroles ont un impact, je pense que c'est ça qui nous a manqué.
Il est 20h sur France Culture et il faut rattraper les amours, rattraper les corps, rattraper le temps et tout ce qui n'a pas eu lieu. Les retrouvailles, ça prend du temps. Chacun les invente comme il peut. On retrouve le chemin des théâtres et on retrouve le besoin de parler, d'écouter. Les colères et les désirs, ils ne datent pas d'aujourd'hui, plutôt d'hier. Les choses à dire, à écrire, à jouer sur scène, elles sont sorties de terre bien avant le printemps et le confinement. Mais une saison qui disparaît du calendrier, ça change forcément la façon dont on ressort dehors. On a couvé des mots, on cherche les bons. Les retrouvailles pour notre deuxième émission de la saison, c'est avec une écrivaine et un écrivain de théâtre, Penda Diouf et Lazare, dont les mots depuis longtemps portent les récits et les visages manquants, où la solitude de l'écriture est suivie par le besoin immédiat de rencontres. Lazare ne supporte pas les cœurs qui battent loin les uns des autres. Il avait écrit en 2012 dans sa pièce Rabat Robert la scène des virus. Un personnage disait « On ne se révolte plus contre les choses, on n'est pas résigné non plus, on est malade et cela ne passera pas, le ciel lui-même est malade. » Lazare vient d'improviser fin août à Paris en plein air, Eros en confinement, pour conjurer le sort et retrouver la viralité de corps et de poésie, comme il dit. Penda Diouf, elle, a eu envie de prendre le temps, l'automne, à la MC 93 de Bobigny, pour enregistrer des voix, des gens, avec une question « Comment prendre soin de soi ?» et faire une radio pirate et résistante. Les retrouvailles, c'est aussi avec Mariama Saïdi, qui fait partie du Conseil des jeunes de la MC 93 à Bobigny, et qui a réfléchi, comme elle dit, à un sujet grave intéressant, le futur. Elle l'a résumé comme ça, ne pas rendre opaque ce qui a soudain été visible et réparé. Nous sommes donc avec Penda Diouf, comédienne, écrivaine. Elle commence une résidence à la MC 93 de Bobigny dans le cadre du programme La beauté du geste qui rassemble les lieux de création en Seine-Saint-Denis. Sa pièce Piste sera mise en scène par Aristide Tarnagda au Festival d'automne en décembre. Nous sommes avec Mariama Saïdi, 20 ans, du Conseil des jeunes de la MC 93. Nous sommes avec l'auteur-metteur en scène Lazare qui vient de jouer Eros en confinement et qui sera du 17 au 20 septembre au Lavoir moderne parisien pour Lazare Station, une relecture musicale des textes et des chansons qui ont traversé ces derniers spectacles. Le compositeur franco-libanais Bachar Marhalife nous offrira deux morceaux de son sublime nouvel album On Off qui sort le 23 octobre prochain. C'est tous en scène sur France Culture. On prend des nouvelles du théâtre dans le monde et ce soir à Kigali, au Rwanda. Ça commence par une discussion entre acteurs en Kinyarwanda.
Regarde, tukarara muri sa admira vuba vuba tukatuwa ni modoka iraparitse aba tipe bari basohotsemo birukanga kwa bumbasutu bashiki modoka indi isiza vu
jiwagon suit
basomu aba umugore wanjye n'umugore wanjye tukasigara basa monta wowe message uri murakora wa map audience tegereje. Next on stage, professor in movement, aesthetic, Mugisha, Frank.
On entend la voix de Yannick Amanzi, jeune acteur, danseur, auteur de Kigali, qui parle avec ses amis dans sa maison de quartier, du quartier de Nyamirambo. Il est né en 95 et il a décidé il y a quelques années d'écrire des pièces de théâtre pour questionner l'histoire de son pays et la façon de le transmettre. Et juste après le confinement, il a décidé de créer un nouveau lieu de création dans Kigali, qui manque d'espace justement pour la scène. Yannick Kamanzi, est-ce que vous êtes avec nous depuis Kigali?
Oui, allô?
Est-ce qu'au printemps à Kigali, il y a eu le même silence qu'ailleurs? Est-ce que tout a fermé? Est-ce que vous êtes resté chez vous en attendant? Qu'est-ce qui s'est passé?
Tout le monde, en fait. Ça a commencé en mars. C'était presque même la date où je devais revoyager et aller en France. Et on a eu les aéroports qui ont fermé hein, d'abord. Et après, ils ont demandé à tous les bureaux de fermer. Et on a été en total lockdown pendant 6 semaines, jusqu'en mai presque. Et depuis mai, on est dehors, mais il y a un sorte de curfew. Donc aujourd'hui à 19h, il n'y a plus personne à la rue, il y a tout le monde dans la maison. Les musées et les espaces de culture sont réouverts, mais il y a des milliers de conditions pour y aller, pour y accéder.
Et est-ce que vous avez continué à écrire, à danser pendant le printemps?
Pendant un moment, on a dû rechanger de méthode, on a dû réapprendre à vivre sans nécessairement être ensemble et à créer sans nécessairement être dans un même espace physique. Et ça a été une aventure intéressante parce qu'après, avec la compagnie avec laquelle je travaille, on a commencé à penser à ne pas éliminer le festival qu'on devait avoir en juillet. C'était le Ubumuntu Art Festival et on se dit pourquoi ne pas se créer une audience en ligne et offrir un festival virtuel.
Yannick Kamanzi, à Kigali, il n'y a pas énormément de lieux pour le spectacle vivant. Il n'y a pas beaucoup de théâtre, il n'y a pas beaucoup de scènes. Et vous avez décidé de déménager dans votre ancienne maison à Nyamirambo, à Kigali, après le confinement pour créer un lieu de création.
Oui, juste après le festival, en fait, je me suis dit s'il y avait une chance qu'à Kigali on construise un théâtre cette année, la chance a été foutue par le pandémique et tout. Et je me suis dit comment est-ce que moi, parce que j'avais besoin d'un espace de création, mais aussi un espace où je peux avoir une audience venir voir ce que je fais. Et pas seulement moi, mais tous les artistes avec qui je travaille, les artistes avec qui on vit du jour au lendemain. Et pas seulement parce qu'on a besoin de survivre en tant qu'artiste, mais on a besoin de créer pour vivre. C'était aussi le besoin de créer pour continuer à vivre et pour être zen qui a fait que je déménage, que je retourne dans ma maison qui était à Nyamirambo. Ça faisait 5 ans que je ne vivais pas là. D'un côté, je crée un espace où moi, mes amis et mes camarades ont créé. Là maintenant, vous pouvez même leur écouter, ils sont derrière dans le background. Il y a des musiciens, il y a des danseurs, des poètes qui créent.
Bonne chance alors pour ce nouveau lieu à Kigali. Yannick, en tout cas, on entend qu'il y a beaucoup de vie autour de vous.
Oui.
Et la ligne n'est pas toujours parfaite. Donc on vous...
Désolé, hein, désolé, grave.
Mais ça marche quand même, on a entendu l'essentiel. Et est-ce que, Yannick Kamanzi, vous êtes de la même génération que Mariama Saïdi qui est en studio, puisque vous avez 25, 20 ans. Est-ce que Mariama, elle fait partie du conseil des jeunes de la MC93 de Bobigny. Est-ce que vous auriez un mot, une question, quelque chose à lui adresser depuis Kigali?
Oui. Là, ce que je pense à dire à Mariama, c'est que du coup, je suis sûr qu'elle a été à l'école et qu'elle a appris l'histoire. Mais elle peut créer avec sa famille, avec ses amis, avec les projets qu'elle fait. elle peut créer une histoire alternative. En anglais, on dit alternative history. Donc, ils peuvent apprendre qu'en 2020, il y a eu une pandémie, il y a Corona, il y a tout. Mais il y a une personne qui avait 20 ans qui a fait ça.
Merci beaucoup. Merci Yannick. En tout cas, Mariama a commencé à raconter justement et à se raconter. Et on va écouter un petit extrait d'une vidéo qu'elle a enregistrée pour La Vingtaine en Quarantaine, qui était un projet de Irvine Annex. On écoute, c'était au printemps dernier.
Moi ça va, je m'appelle Mariama. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est grave intéressant, le futur. Et de comment j'envisage l'après Covid-19, des choses comme ça. Je commencerai par quoi? Ce que le Covid-19 a changé en moi. C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, que j'étais beaucoup plus introvertie que je le pensais. C'est-à-dire que je pouvais passer des heures à réfléchir à des choses qui vont pas me servir forcément. Mais j'aimais bien passer du temps quand même à y réfléchir. Je pense que le Covid-19 est un peu, c'est comme si on prenait une feuille calque et qu'on passait le crayon dessus. C'est-à-dire que là, tout est visible. Tout est devenu plus visible. Et j'espère que tout ce qu'on a vu qui n'allait pas va changer en bien. On a vu que là, il y avait beaucoup d'inégalités, que l'argent encore, ça avait beaucoup de pouvoir dans le monde, qu'on ne vivait pas le même confinement, qu'on soit pauvre ou riche. Et que quand on était pauvre, on avait des chances incalculables de tomber malade et que tout s'effondre, en fait. Il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup d'injustices. Et je pense que l'après-Covid, ce sera une opportunité de tout changer.
Mariama Saïdi, vous avez 20 ans. Et ça fait 3 ans que vous faites partie du conseil des jeunes à la MC 93 de Bobigny. Comment vous avez eu envie d'y aller? Il paraît que c'était une provocation de votre frère.
Oui, c'est exactement ça. En fait, il m'a provoqué sur un sujet qui me faisait réfléchir depuis longtemps. Comment faire en sorte que les jeunes se sentent impliqués dans des projets? Et il m'avait dit que toi, t'es là à te plaindre qu'il n'y a jamais rien pour les jeunes, mais tu fais rien pour les jeunes. Et je pense qu'il m'a juste piqué... Au bon endroit, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'aller voir, d'aller explorer en fait ce qu'il y avait autour de moi pour les jeunes et qui m'a donné envie de faire les choses pour les jeunes après.
Et pourquoi vous y êtes restée?
Je pense que quand on explore et qu'on voit que le chemin est assez beau, on ne veut jamais vraiment arrêter l'expérience, et pour l'instant, pour moi, le paysage que j'explore est assez beau et assez unique, donc je ne veux pas arrêter pour l'instant, c'est un peu ça.
Et le conseil des jeunes à Bobigny, il fait quoi?
Nous, on est là pour montrer, pour faire voir les choses en fait qu'il y a pour les jeunes, que ce soit les pièces, que ce soit des rencontres, que ce soit des images, mais aussi des expériences de vie. Et on essaye de partager ça avec le plus de jeunes possible et qui se sentent pas mal à l'aise face à ce qu'il y a, mais plutôt s'adapter ou s'approprier en fait ce qu'il y a autour d'eux et pas se sentir rejeté par ce qu'il y a en face d'eux.
Et avant, vous faisiez déjà ça? Vous parliez de théâtre autour de vous?
Moi, non, pas du tout. Justement, j'étais de l'autre côté. J'étais celle qui avait toujours peur, qui se disait que le théâtre, c'était pas fait pour moi. Qui se disait, si je comprends pas aujourd'hui, je comprendrai pas demain. Alors que j'avais complètement tort, en fait. Et je pense que le conseil des jeunes m'a vraiment permis de comprendre, en fait, mes torts. Pas forcément de dire, là, t'avais tort, là, t'avais raison. Mais plutôt de comprendre et de faire avec. C'est-à-dire, avant, je ne savais pas tout, mais maintenant, j'en apprends et ça me sert aujourd'hui.
Et vous êtes toujours plus calme et plus posée qu'avant le printemps?
Je dirais que oui, je pense que le confinement, en fait, moi, j'ai très mal vécu parce que je suis quelqu'un de très sociable et que là, on me coupe de tout. Que ce soit... Même le métro m'a manqué alors que c'était un endroit que je détestais avant. Et juste de ne pas croiser des visages, je crois que c'est ça qui m'a fait le plus mal. Et je pense que ça m'a beaucoup calmée, en fait. Ça m'a forcée à réfléchir à moi avant de penser société, en gros. Parce qu'on nous a toujours appris à faire société, à socialiser, mais jamais à vraiment se poser sur nous-mêmes. Et que le confinement, c'était vraiment... On te force à te questionner sur toi et ce que tu fais.
Ça vous a fait écrire ce moment-là, Lazare? Puisque vous avez écrit un long texte.
un peu. D'abord, je suis très touché par tout ce que tu racontes sur Bobigny, tout ça, et d'entendre ta voix, c'est hyper beau, c'est hyper touchant. Parce que Bobigny, c'est un endroit qui me touche beaucoup, ce qui se fait à l'AMC aussi, et de penser que moi, j'étais pas en lien avec les acteurs ou avec mes amis, et puis aussi de tout, de devoir écrire, de me sentir la responsabilité d'écrire, de dire, pas pour dire la vérité, parce que on est dans un monde qui met en avant toujours la fausseté et les propos politiques devant, où on met toujours devant le finalement des mensonges, et du coup de retrouver par l'écriture une espèce d'aura, une espèce de chose qui est au-delà même de la vidéo ou des écrans, de remettre en lien la parole et ce qui peut advenir dans la parole, en espérant que des choses meilleures arrivent pour le monde, pour la France aussi et pour le monde. Repenser aux manifestations, au manque de masques, aux lits qui manquent, aux yeux blessés, aux parents qu'on peut pas visiter, aux lits où on sait pas s'il y aura un lit pour quelqu'un qui est malade, qu'on aime, se retrouver tout seul en face de l'écriture et de cette responsabilité qui est celle de dire le monde à venir, ou d'essayer en tout cas de s'efforcer de dire quelque chose qu'on on ne sait pas où sont les limites de ce qu'on écrit, parce que ce qu'on écrit n'a pas de limite, ne sait pas, parfois on ne maîtrise pas ce qu'on raconte, et c'est quand même de donner quelque chose de beau, de fort, pour continuer à avoir du courage, mais de dire aussi tout ce qui ne va pas.
Et ce texte que vous avez écrit pendant le confinement s'appelle « Sous la croûte, le bruit ardent des vagues tant qu'il reste un souffle ». Et vous parlez de cette écriture pas forcément maîtrisée, vous vous rendez compte en écrivant là qu'en 2012, dans cette pièce Rabat-Robert, vous écrivez une scène qui s'appelle « Les virus ». Et évidemment, sans prédire rien, mais en parlant déjà de choses qui...
En fait, il y avait eu la Grèce à l'époque, et du coup, ma question, c'était sur la colonisation. Du coup, j'étais repassé par France Fanon, tout ça. Mais je me suis posé la question de la colonisation économique, en disant que c'était la nouvelle colonisation, une nouvelle forme. Du coup, on était tous colonisés, en fait, mais par l'économie. Et je me suis dit, tiens, des virus vont attaquer une maison, et la mère va devoir sacrifier certains des enfants à l'économie en les tuant, et tout le monde va devenir des moutons. Il y avait une grande transformation en moutons. Du coup, j'ai écrit cette scène-là, oui, en 2012, et quelque chose m'échappait complètement, et échappait complètement aux acteurs, mais on savait, nous, en travaillant, en inventant, qu'il était important de traverser cet espace, et que plus tard, il allait peut-être, sous une autre lumière, prendre le contraste ou la couleur qu'il devait prendre dans l'histoire et le temps. Et ça, c'est aussi drôle de se dire aussi que sur Ismaël, par exemple, il y a des gens qui apprennent par des disquettes, par des ordinateurs.
Une autre de vos pièces.
Oui, où c'est Laura. Laura qui est un système informatique qu'on met à l'intérieur de la tête des gens, et il n'y a plus de rencontre, on n'a plus d'aura en fait. C'est une espèce de jeu comme ça. Du coup, c'est assez rigolo de toujours se dire que cet espace-là, qui est l'espace d'invention ou d'écriture, ne se limite pas simplement à ce qu'on dit, mais c'est une espèce de quête vers l'infini.
Penda Diouf, on parlait de Bobigny. Vous, ça fait une quinzaine d'années que vous habitez en Seine-Saint-Denis, je crois. Et je crois que la MC 93 de Bobigny a proposé des retrouvailles, justement, enfin, de faire des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on réouvre cet été, cet automne? Et vous, ça a provoqué un désir de voix, de rencontres et sur le temps, et peut-être de radio d'ailleurs.
Oui, ouais, exactement. Alors, moi, pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de mal à produire et à écrire. Je pense que j'ai été un peu... Le terme sidéré revient régulièrement, mais je pense que j'ai été vraiment sidérée par ce qui s'est passé et happée par une sorte de temps médiatique qui était rythmé par les interventions de Jérôme Salomon tous les soirs qui faisait le décompte macabre un peu des décès de la journée. Et j'ai mis très longtemps en fait à m'extirper de tout ça. Et j'ai eu l'impression que j'avais besoin, et j'ai eu la chance de pouvoir me l'octroyer entre guillemets, mais d'un temps de silence justement pour... pour laisser la place à ces voix-là et d'avoir du temps aussi pour écouter ces voix-là, pour leur laisser de la place. Et c'est vrai que la Seine-Saint-Denis, c'est un département que je connais bien parce que j'y ai travaillé comme bibliothécaire à Saint-Denis pendant longtemps.
Et vous avez été ouvreuse à la MC 93.
Et j'ai commencé, mon premier job étudiant, c'était ouvreuse à la MC 93 quand j'avais l'âge de Mariama. Du coup, c'est vrai qu'il y a une histoire très forte avec la MC 93 et avec les habitants du territoire de Seine-Saint-Denis. Et voilà, j'avais envie à la fois de leur laisser de la place parce que c'est un département qui a été beaucoup stigmatisé, notamment au début de la période de confinement. On a dit que les gens ne respectaient pas le confinement. Il me semble que c'est Castaner qui avait parlé du nombre de contrôles, qui avait été fait en Seine-Saint-Denis, et c'était le double en fait de la moyenne nationale. Et quand j'entends ça, ben je me dis qu'il faut qu'on les écoute, ces habitants, qu'on leur laisse la parole, aux personnes qui vont travailler, aux personnes qui sont bloquées chez elles, aux personnes qui sont nombreuses dans un appartement qui est peut-être trop petit, aux personnes qui sont enfermées parce qu'elles sont détenues en prison. Et voilà, c'est toutes ces voix qu'on n'a pas entendues pendant le confinement, en fait, auxquelles j'avais envie de donner la parole, en fait, et qu'on travaille ensemble et qu'on crée quelque chose ensemble, en fait. D'où l'idée de radio.
Et au-delà de l'enregistrement, vous faites beaucoup d'ateliers d'écriture. Est-ce que vous imaginez l'écriture arriver, peut-être la fiction? Comment ça s'articule dans votre tête pour le moment, puisque c'est quelque chose que vous allez faire à l'automne?
Oui, alors c'est quelque chose vraiment qu'on va créer ensemble avec le Conseil des jeunes notamment, mais j'avais très envie qu'il y ait plusieurs pans, à la fois un pan un peu documentaire avec des questions posées aux habitants du territoire, et en même temps un temps de création et de création d'un objet radiophonique et d'une série, un feuilleton radio qui serait créé avec les jeunes du conseil et avec ma participation, et à la fois sur le confinement, sur les mots du confinement aussi, parce que cette période-là a vu apparaître plein de nouveaux mots comme confiné, confinement,
la distanciation,
sociale, geste barrière, physique, geste barrière, exactement. Et l'expression aussi prenez soin de vous, voilà, qui m'a beaucoup marquée et qu'on entend énormément depuis. Donc j'avais envie de travailler sur ces questions-là, donc à la fois faire des ateliers d'écriture autour de ces thématiques, peut-être aussi trouver des textes qui résonnent, qui soient en écho avec tout ça, et puis dépasser aussi cette histoire du confinement, parce qu'il commence à s'éloigner, même si le monde d'avant n'est pas totalement revenu. C'est une sorte de monde dégradé un peu dans lequel on vit aujourd'hui, et où je pense le capitalisme va être de plus en plus dévorant et de plus en plus cruel. J'espère que par la fiction, on va réussir à créer des liens et à justement casser cette distanciation physique-là.
Lazare, vous avez fait une performance fin août sur le parvis de l'Espace Cardin à Paris avec le Théâtre de la Ville. Ça s'appelait Héros sans confinement. Et là, les gestes n'étaient plus barrières.
Là, les gestes n'étaient plus barrières, et c'était beau de pouvoir retrouver des personnes qui avaient envie d'entendre de la parole. C'était un projet avec la chorégraphe Jeanne Gallois, que je dois nommer, et puis le batteur Louis.
Voilà, devant un public masqué.
Geoffroy. Et c'était une improvisation, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'est de me mettre en face de l'autre et de pouvoir échanger du temps avec nos corps, avec nos espaces, et sur le thème un peu de Cupidon, Psyché, Vénus comme étant la déesse du mystère, et la question de la responsabilité. À l'intérieur de ça, la responsabilité que prend à un moment donné Cupidon, qui va aller tester sa liberté en faisant quelque chose d'interdit, en devenant invisible, et puis aussi cette psyché qui va aller éclairer l'inconscient, qui va aller passer de l'autre côté des mondes avec sa lampe pour voir ce qu'elle doit pas voir, pour essayer de comprendre ce qu'elle doit pas comprendre, qui devient une héroïne qui affronte Vénus, qui est la déesse de l'ombre et du désir, et qui devient un héros, une héroïne en se battant contre la démence des dieux.
Et là, vous jouez avec justement les distances et les barrières qu'on a dû mettre. Le public est évidemment masqué, il est obligé.
Il y a un grand bal masqué, il y a des chats et des oiseaux.
Mais vous vous approchez le plus possible.
Je m'approche un peu du public, mais je fais quand même attention de ne pas aller vers le corps à corps pour pas...
Le corps à corps, il est avec la chorégraphe, la danseuse.
Il est avec la danseuse, le corps à corps. Et puis le corps à corps, il est avec les mots, avec l'invention. Je m'approchais un peu du public comme ça, mais je faisais très attention quand même de pas leur envoyer des milliards de postillons en articulant mes phrases.
On va écouter, on parle de la Maison de la Culture de Bobigny, on va écouter des jeunes gens qui parlent de la Maison de la Culture d'Orléans. C'est en 1971 et c'est pas encore tout à fait ça.
Disons que c'est pas, on ne peut pas communiquer à l'intérieur de la maison agriculture, c'est pas, elle n'est pas représentative d'un courant, d'un mouvement d'esprit, d'un mouvement artistique, d'un mouvement théâtral, de tout un tas de trucs dans ce genre-là. Ensuite, on voit tout le temps la même personne, donc elle n'est pas ouverte, si vous voulez, à la masse des gens d'Orléans, à la jeunesse, aux ouvriers. Alors qu'au début, elle avait bien été faite justement pour qu'elle soit représentative, si vous voulez, des gens d'Orléans.
Pourquoi dites-vous qu'elle avait été faite au début? Enfin, je veux dire, il y a eu des déclarations, de principes, de...
Si vous voulez, au début, à l'origine de la fondation de la Maison de la Culture d'Orléans, on avait dit il faut qu'elle soit ouverte à tout le monde. Et... depuis un certain temps, cette maison n'est plus ouverte à tout le monde. Si vous voulez, moi je viens tous les dimanches ici et tous les dimanches je joue les mêmes têtes.
Il y a du chemin qui a été parcouru depuis. Mariama Saïdi, c'est pas du tout le visage de la MC 93 de Bobigny, évidemment. Mais vous, comment vous le vivez? Vous êtes dans le Conseil des jeunes, vous faites de la médiation. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ça?
Je pense que justement, au contraire du témoignage, c'est de ne pas avoir les mêmes visages qui me plaît le plus. Et de savoir que une pièce peut toucher différemment n'importe quelle personne. Et le fait d'entendre ça, moi, ça me fait... Je suis là, mais ça vient de quel temps, de quel espace? Et je pense que... on ne doit pas oublier que les maisons de la culture, c'était fait pour tous, mais que les façons de se l'approprier sont différentes et qu'il faut accepter ça. Et s'approprier l'espace n'est pas la même chose que s'approprier la vie qu'il y a dedans, en fait. Et je pense que cette personne, c'était juste approprier l'espace. Et il pensait qu'il y avait les mêmes personnes, mais non, en fait, parce que les histoires ne sont pas les mêmes et qu'il ne faut pas oublier que les histoires sont différentes au début et à la fin d'une pièce. Et que même l'impact que ça a, c'est différent. Et l'histoire, par exemple, c'est fait pour transmettre, mais il y a toujours l'histoire officielle et les histoires de rue, et que c'est pas du tout la même chose. Et je pense que cette personne-là n'avait pas fait assez de distance entre les deux.
Et vous pensez que ça va se passer comment, là, la rentrée pour le Conseil des jeunes, au théâtre?
Je pense qu'on est obligé d'innover d'une certaine façon, de bricoler, en fait. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça va être. Ça ne va pas être comme avant, où tout était déjà calculé, on avait un planning, on devait le suivre. Ben là, s'il se passe quelque chose, comment on fait? Je pense que là, on doit bricoler avec ce qu'il y a, avec les consignes qu'il y aura, avec les personnes qu'il y aura aussi, parce qu'on doit s'adapter au public. S'il y a plus de monde, comment on fait? Comment on partage l'espace, mais aussi les expériences? Ça va être du bricolage, mais je pense que ça va être... un collage de mosaïques un peu, je pense que ça va être ça. On va faire comme on peut.
Vous aviez l'habitude de faire des petites vidéos à la sortie des spectacles?
Bonsoir tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du Crash Test. Là on va faire notre interview avec les jeunes comédiens et on va les laisser se présenter comme ça, on ne spoil pas trop. Présentez-vous en quelques mots.
Je m'appelle Yacine Richard.
Moi c'est Loïc Gianni.
Ça, c'est le tout début, donc après, il y a l'entretien avec les comédiens. Vous, est-ce qu'il y a des pièces qui vous ont modifié, Mariama Saïdi? Est-ce que depuis 3 ans, vous disiez on ne ressort pas de la même façon? Ça vous est arrivé?
Ah, beaucoup de fois. Et je pense que c'est justement ça qui me plaît le plus, parce qu'à chaque fois, j'apprends de nouvelles choses, de nouvelles histoires, mais aussi de nouvelles versions de l'histoire. Et c'est ça qui est drôle, en fait, parce que... on apprend de nouveaux points de vue qu'on n'avait pas explorés. Et, par exemple, Démocratie in America, je sais que c'est une pièce qui m'a extrêmement marquée parce que c'était nouveau pour moi au niveau visuel, mais aussi au niveau sensation. Et je pense que c'est l'une des pièces qui m'a le plus marquée.
C'était une pièce
de Castellucci. Et cette année, d'ailleurs, il va revenir à l'AMC. Et je me dis, est-ce que je vais ressentir la même chose? Parce que chaque création a un but, mais est-ce que ce but-là va être... On s'attend toujours à quelque chose, mais est-ce que ce sera ça le résultat? Et c'est drôle en fait de voir comment ça nous change les pièces.
Des amis sont venus prendre un verre, une heure, et nous avons fait l'amour à plusieurs.
L'amour à plusieurs, 1972, Anne Sorel, c'est un titre réinterprété par Bachar Maralifé dans son nouvel album On Off, qui sort le 23 octobre, où il rend aussi hommage à Fayrouz, où on trouve la voix de son père Marcel Ralifé ou du chanteur Christophe, qui nous manque. Il l'a composé dans les montagnes du Liban en décembre dernier. L'électricité coupait deux fois par jour, c'était on-off. Il est parti surtout sans rien prévoir, comme il dit, en faisant confiance aux insomnies, aux carnets de notes. Alors on entend à travers sa voix des retrouvailles avec soi-même, et c'est de ce dont on avait besoin, une forme de joie simple et pure, comme il dit encore. Bachar Maralifé, vous parlez dans un des morceaux on-off de la vérité qui vous attend à la montagne, là-bas, à la maison, et puis surtout l'envie de ne rien prévoir, de faire confiance justement à ces insomnies rituelles. C'était quoi cette intuition qu'il fallait partir dans les montagnes au Liban en décembre dernier pour composer ?
C'est répondre à un certain appel du moment, un appel physique déjà, parce que cette maison est une maison en pierre, un peu perdue dans la forêt. C'est à côté d'une réserve de cèdres. Il y a beaucoup d'animaux. On peut entendre des hyènes la nuit. On peut entendre des oiseaux, évidemment. Et je me disais toujours que j'aimerais beaucoup enregistrer quelque chose dans cette maison, même si c'était pas du tout une maison équipée pour un enregistrement en tant que tel. Mais j'ai répondu à l'appel et c'était aussi le fait de retourner d'aller au Liban, mon pays natal, et de me dire qu'on peut créer même quand le chaos est total autour de nous.
À ce moment-là, quand vous y étiez, c'était le moment de la révolution, l'an dernier.
Oui, ça faisait deux mois à peu près que le peuple était dans la rue, que la crise économique était très virulente et que le dollar flambait, et que l'électricité était de plus en plus rare, et depuis c'est de pire en pire évidemment, mais jamais avec le recul je me dis que j'ai eu beaucoup de chance d'y aller et de pouvoir rentrer aussi en France avant toutes ces explosions successives, qu'elles soient économiques ou pandémiques, ou la récente explosion à Beyrouth.
Et le premier morceau qu'on va écouter en studio s'appelle...
Le premier morceau, c'est le morceau d'ouverture de l'album, s'appelle Zakrine.
On y va ? On va écouter la voix du metteur en scène québécois Robert Gravel parler de l'élan, le momentum, de l'improvisation en 1978.
Grande recherche du plaisir et finalement du bonheur à improviser. Ouais. Ça, que je compare, moi, au sport, là, disons, là, quand quelqu'un a le momentum. Quand quelqu'un a le momentum, c'est-à-dire que quand tu l'as seul, mettons, quand tu l'as seul, ça va très bien, puis c'est coulant, et tu sens que t'es dans un monde qui t'appartient et les choses s'enchaînent. C'est un grand bonheur à parler ou à faire des gestes qui sont logiques, une certaine logique, seul. Ensuite, avec d'autres, quand ça se reproduit, c'est fantastique parce qu'en fin de compte, on ne peut pas chercher en improvisation, personnellement, c'est ça que je crois, on ne peut pas chercher autre chose que l'harmonie, même s'il y a conflit, même si c'est des êtres improvisés qui se déchirent ou qui font qui s'entretuent presque là. S'il y a harmonie, ça te propulse, c'est un moteur terrible. Et là, tout ça, même si ça part de l'inconscient là, tout ça tend à trouver ce bonheur là, ce momentum là.
Lazare, j'aimais bien ces mots de Robert Gravel parce qu'il parle de l'improvisation et de chercher l'harmonie. Vous avez décidé d'improviser pour Héros en confinement.
Pour renouveler les cellules. Parce qu'il y a besoin de renouveler les cellules, de reprendre nos libertés, de pouvoir reprendre nos libertés. On ne sait pas ce que c'est que la liberté. Et ma seule justification pour improviser, c'est d'essayer de mettre à l'épreuve ce que je ne sais pas. Ce que j'ignore, pour peut-être bouleverser quelque chose dans l'inconnu, dans l'inconscient, d'aller comme Psyché prendre la lampe et éclairer l'endroit de ma peur ou de mes fantasmes ou de mes horreurs, c'est aussi une idée de se désenvoûter. Dans l'improvisation, il y a un combat avec une autre bête qui est nos peurs, nos inquiétudes, aussi une rencontre avec l'autre, parce que tu improvises dans les yeux de l'autre, tu cherches dans son regard et tu inventes sa parole. Si par exemple je reçois des personnes qui réagissent à mes mots changent, mes mouvements changent par rapport à eux. Si je suis face à des politiciens, je vais improviser complètement différemment, je vais avoir des choses à dire, je vais avoir la nécessité de dire des choses et de mettre en danger aussi ma parole, ma vie, cette vie qui est le souffle aussi, et d'aller dans un endroit où le contrôle et l'incontrôle jouent avec la folie, c'est-à-dire de cette folie qui est en nous, qui fait notre équilibre, c'est-à-dire de cette sortie de la vie en respirant, en éjectant avec la lumière, et de reformer des mots en jetant les pierres du destin et en réinventant ce qui est sacré et ce qui n'est pas sacré et ce qui peut se dire. Tu es dans un endroit qui est quasi magique, dans le sens où d'un seul coup, la parole va naître et ce qui va se dire, les gens sont là pour l'écouter, la partager avec toi, et tu vas rentrer dans leur temps d'existence et tu vas les traverser.
Et dans Héros en confinement, Lazare, il y a Psyché, il y a Cupidon, il y a l'improvisation et il y a vous. Il y a beaucoup de votre existence, il y a Bagneux,
Il y a Bagneux, il y a aussi Vénus, il y a aussi le théâtre, il y a un théâtre qui est un théâtre du mystère, qui est le théâtre de Vénus, de l'ombre. Il y a l'impossibilité aussi de faire des fois avec l'autre, il y a le danger d'aimer l'autre dans ce qu'il est, alors qu'il est pas complètement pareil. Là, je me retrouvais par exemple aux Champs-Élysées avec beaucoup de contrôle, beaucoup de policiers en face de l'ambassade des États-Unis. J'étais enfermé ici alors que je voulais retourner vers chez moi, vers Bagneux ou vers Barbès, vers dans mon quartier, et j'étais obligé d'être là emprisonné par un Cupidon politicien qui me tenait entre ses mains, et j'étais obligé de subir, parce que bien sûr je suis Psyché. Je ne pouvais pas être Cupidon. Je suis plus une princesse dans mon corps, dans mon être, que Psyché. Du coup, et puis il y a aussi toutes les catastrophes du monde à l'intérieur de ça. Il y a aussi des rencontres avec les catastrophes, et il y a aussi un tenter de dire ce qui n'est pas disable ou ce qui n'est pas entendable. Et de ça commence par quelqu'un qui passe le balai. Parce qu'il faut balayer, parce qu'il y a des pierres, parce qu'il faut porter une danseuse. Et si je me casse la gueule, je vais me casser la gueule. Mais sauf qu'il y a toujours des gens qui balayent, qui nettoient, qui ramassent après, une fois qu'on a foutu les ruines partout, il y a toujours quelqu'un qui vient nettoyer. Du coup, ça commence par monter dans la cathédrale et regarder le chef-d'œuvre Café Dieu, qui est un chef-d'œuvre de sang et de catastrophe. Et il y a un pauvre gars qui lui dit, bah, j'ai ramené la serpillière, maintenant il faut que je lave tout ce que t'as fait, là, de sang et de catastrophe sur Terre. Maintenant, c'est à moi, avec tous les virus que tu nous as foutus, toutes les guerres que tu nous as foutues, maintenant c'est à moi de passer la serpillière et de nettoyer avec le verbe. Mais j'en peux plus de tes conneries, en fait, monsieur.
Là, on pourrait vous laisser improviser des heures.
Oh oui, moi, ça a été comme ça que j'ai appris à écrire, en fait, c'est en improvisant. C'est en improvisant, en allant dans l'inconnu, en marchant sur les cimes, comme dit Jean Kalevitch, de ce qu'on ignore, et en étant dans cette tension entre le vivant et les dernières expirations, quoi.
Penda Diouf, je crois que vous écrivez depuis que vous avez 19 ans.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé à 19 ans? Qu'est-ce qui vous a fait écrire?
Je crois que ce qui me fait écrire, ce qui est à la jeunesse de l'écriture, encore aujourd'hui, c'est la question de l'injustice, peut-être, et une forme de colère que je ne sais pas très bien comment diriger. Et du coup, je crois que l'écriture et le médium du théâtre ou de la poésie m'ont permis, en fait, de donner une autre charge, en fait, à cette colère et de la digérer et qu'elle ne soit pas autodestructrice, en fait.
Est-ce qu'on peut lire, Penda Diouf, un extrait de votre pièce Piste, un tout petit extrait du début, qui est un monologue qui sera donc mis en scène par Aristide Tarnagda en décembre pour le Festival d'automne à Paris. Voilà, c'est un petit extrait du début du texte.
Jeu d'enfant. Où est passée la petite Penda? Celle avec qui on ne veut pas toujours jouer. Qui n'est jamais au centre des jeux. Elle ne doit pas prendre trop de place, ne doit pas faire de l'ombre au héros. Au mieux, elle l'affronte. Le bien contre le mal. Bien sûr, c'est elle le mal. Ou bien elle aide, elle sert, parfait faire valoir. Ces naïfs jeux d'enfant me préparaient sûrement à ma vie d'adulte. Être toujours en périphérie, en marge, mais ne pas me montrer. Surtout ne pas briller. Ne pas briller. La reproduction de la domination commence tout petit, par mimétisme. Et Mélanie, en maternelle, elle est différente aussi. Blanche, certes, mais avec un problème d'élocution. Elle quitte la classe plus tôt, une fois par semaine, pour aller chez l'orthophoniste. Elle n'arrive pas à prononcer le prénom de son cousin correctement. Lui. 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 Ayant chacune une différence, on est sur le même terrain de jeu. Celui des exclus. Même si la cause de mon rejet est plus visible, plus lourde à porter que la sienne. Puisqu'un médecin lui permettra bientôt de prononcer « Louis » normalement et de rejoindre le groupe, le clan. Moi, je continuerai d'avancer dans la cour des miracles.
Stadium in Oslo, the event we've been waiting for, the men's 200 meters and a chance to see Michael Johnson, the new world record holder at 200 meters against Frankie Fredericks of Namibia, who has been hot as can be in the 100 and says he may not even run the 100 in Atlanta. He wants to focus on beating the man.
Michael Johnson digging down, now ahead of Frankie Fredericks. It's Johnson in four, but Fredericks comes back. It's Johnson in four, Fredericks in five. It looks like it's going to be Frank Fredericks. Winner of the 200 meters, 19.83, unofficially.
La petite Penda dont vous parlez dans le texte, un peu plus loin, rencontre la figure du champion Frankie Fredericks, et on entendait là, c'était une de ses victoires en 96, de Namibie, et ça lui donne envie de partir, et c'est tout à coup un corps noir dans lequel elle projette beaucoup de choses, et c'est le départ d'une histoire, d'un voyage, et aussi de la découverte de la grande histoire et d'un génocide en Namibie au début du XXe siècle. D'où ça vient cette figure de Frankie Fredericks, c'est qui projette Penda dans Piste à la redécouverte de son histoire et puis d'une histoire plus grande qu'elle.
À l'âge de 13-14 ans, je faisais de l'athlétisme et c'est vrai que j'étais comme tous les grands fans d'athlétisme, je suivais tout ce qui pouvait passer à la télé sur France Télévisions, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que Frankie Fredericks était un personnage assez étonnant et qui était un petit peu à côté, un peu à la marge. Et moi-même, à l'époque, j'avais l'impression d'être en marge. Mais c'était un personnage à la marge parce qu'il avait l'air très timide, très, très discret, très... C'est comme s'il n'assumait pas, en fait, d'être à la place où il était. Et alors que c'est un champion incroyable, quoi, qui concurrençait les Américains, qui, eux, sur la piste, en tout cas, au moment de se présenter, étaient toujours beaucoup plus dans le show-off, à montrer les muscles, à interagir avec la foule. Et Frankie Fredericks, c'était pas du tout ça. Et c'est vrai que cette posture-là, très humble, en fait, m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup émue. Et je pense que je me suis projetée aussi dans cette figure-là, adolescente. Et ça m'a donné envie, en fait, de me renseigner sur son pays que je ne connaissais pas. J'avais jamais auparavant entendu parler de la Namibie. Et j'ai commencé à aller à la bibliothèque, à faire des recherches. Et ensuite, je suis partie en Namibie pendant un mois, il y a 8 ans. Et en fait, Piste, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire de la petite Penda qui, à la fois, ne se sent pas totalement... ni chez elle, ni accueillie, alors qu'elle habite ici. C'est aussi l'histoire de la rencontre avec cet athlète namibien, Frankie Fredericks, et c'est également la découverte de l'histoire de ce pays qui est assez tragique, puisque le pays a été colonisé par l'Allemagne entre 1875 et 1915, et ensuite par l'Afrique du Sud, où il y a eu une politique d'apartheid, comme en Afrique du Sud. C'est un pays qui a connu son indépendance très récemment, en 1990, lorsque Nelson Mandela est sorti de prison. Et c'est aussi un pays qui a connu un génocide, puisque 75% de la population Herero et 50% de la population Nama ont été exterminés dans des camps de concentration pendant la colonisation allemande. Voilà, donc c'est un fait historique qui est peu connu, malheureusement, et j'avais envie de mettre en lumière cette histoire-là.
Et Piste, ce sera en décembre en France, mais ça devait être à New York, en tout cas à côté de New York, à Princeton, là, tout début septembre. Et on va prendre des nouvelles des États-Unis en appelant Princeton University. On part donc aux États-Unis à Princeton, à une heure de New York, sur le campus de l'université. En septembre, chaque année, depuis bientôt 10 ans, c'est le festival normalement Seul en scène, festival annuel de théâtre français contemporain, fondé par Florent Mass, qui invite des artistes, des auteurs, des spectacles français. Mais cette année, évidemment, ce sera différent, ce sera en ligne. Et dans le programme, il y avait donc Penda Diouf et Piste. Florent Mass, vous dirigez le programme de théâtre L'Avant-Scène à Princeton University, où vous enseignez. Comment vous avez envisagé ce festival 2020 ?
Bonjour Aurélie. Bien d'abord, j'ai beaucoup attendu le printemps dernier pour décider ce que nous allions faire. J'espérais encore que nous pourrions peut-être faire un festival et inviter des artistes à Princeton comme chaque année. Mais bien évidemment, à partir de la fin mai, début juin, il était clair que ce serait compliqué. Donc on a préféré proposer une édition virtuelle cette année. Ça a été assez passionnant à organiser. Et puis, cet été, j'ai pu aussi m'inspirer d'autres festivals qui ont eu lieu aussi de manière numérique. Je pense au Festival d'Aix-en-Provence, mais aussi ce qu'a proposé le Festival d'Avignon. Voilà, donc nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette édition virtuelle avec des conversations, des rencontres sur Zoom avec les artistes, des captations, mais aussi des programmes spécialement préparés pour Seul en scène cette année. Je pense à la lecture de Penda Diouf, mais aussi quelques scènes de Racine qui vont être lues par Astrid Bahia et Sandy Ouvrier.
Et Florent Mass, est-ce que vous pouvez en profiter pour nous donner des nouvelles du théâtre à New York ? Comment j'imagine que rien n'a rouvert ?
Alors pour le moment, rien n'a rouvert. Broadway est censé rouvrir le 3 janvier, donc juste après le Nouvel An. Là, j'ai vu qu'à partir de la semaine prochaine ou ce week-end, une salle à New York, la St. Anne Warehouse, proposer, commencer à proposer un spectacle à l'extérieur, quelques manifestations. Je crois que ça va reprendre peut-être très très doucement, mais pour le moment, la plupart des théâtres américains proposent des saisons virtuelles ou bien des saisons hybrides avec quelques événements proposés, parfois en extérieur, et puis énormément de programmes virtuels pour le moment, c'est ce que nous voyons.
Et vous enseignez à Princeton University, là les cours sont en ligne. Comment on travaille avec les élèves quand on répète des scènes, quand on répète du théâtre, puisque vous mettez en scène des choses avec les élèves à distance? Comment vous allez faire?
Je viens de commencer avec mes élèves, on va monter On ne badine pas avec l'amour pour début octobre. On vient de commencer la répétition. Nous allons être créatifs, on prend les choses calmement. Et puis j'ai aussi commencé mes cours de théâtre avant-hier. Les deuxièmes cours ont lieu aujourd'hui. Et j'essaie de recréer, de m'adapter à ce nouvel environnement sur Zoom. Et ce que j'essaie surtout, en tant qu'enseignant, c'est moi d'être actif. Je ne suis pas du tout assis à un bureau où l'on ne voit que mon visage. Je suis debout. J'ai organisé chez moi une sorte de studio de production pour aussi inspirer les élèves. Et les premiers cours ont été concluants. Enfin, j'essaie de leur donner beaucoup d'enthousiasme, de le partager. Et puis, je pense que on va aussi énormément regarder ce qui a été tenté, aussi expérimenté ces derniers mois dans ce théâtre virtuel. Ce n'est pas idéal, mais on va essayer de s'adapter. Et je vais, avec les élèves aussi, explorer leur espace dans lequel ils sont. Très doucement, on va essayer de... Là, je pense à On ne badine pas avec l'amour. On va essayer aussi, je vais demander aux élèves de se filmer, de travailler peut-être en extérieur, essayer de voir ce que nous pouvons faire selon le lieu où ils sont.
Merci beaucoup, Florent Masse. Alors, bon festival en ligne, et puis bonne rentrée sur Zoom à Princeton.
C'est très très gentil.
À bientôt.
Merci. À bientôt.
On va continuer en studio avec Bachar Mar-Khalifé, et cette fois-ci c'est un hommage à Férouz.
ساحت وينك يا حبيبي بعدك يا حبيبي صرنا الحب الصارخ صرنا المسافات اشتقنا للايام السعيده ايام السهر عالطريق عجقت سير ومشاوير بعيده نتلاقى بالمطعم بيروت يا هوى الايام رجعي يا بيروت بترجع الايام تحت نجوم الليل مشردين
أو لك الأصحاب وين بيكونوا وين بيكون الدمع والحنين يا هوى بيروت يا هوى الأيام رجعي يا بيروت بترجع الأيام بترجع الأيام بترجع
J'ai envoyé dans plusieurs endroits du monde une question, comment va se réinventer le théâtre chez vous ? Et on finira ce soir avec ce message de Madrid.
Buenas noches, me llamo Jordi Bucho, vivo en Madrid, España, y junto a mis amigos Miguel, Israel y Aitor, dirigimos un théâtre privado llamado el Pavón Teatro Kamikaze. Bonsoir, je m'appelle Jordi Bucho, j'habite Madrid, l'Espagne, et avec mes amis Miguel, Israel et Aitor, on dirige un théâtre privé appelé El Pavón Teatro Kamikaze. On a beaucoup hésité à recommencer. C'est vraiment difficile pour un théâtre privé rouvrir dans les nouvelles conditions. Mais on a pris la décision parce qu'on croit que le théâtre est plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Et je ne parle pas simplement de faire du théâtre, je parle de l'avant et du post-spectacle. Du rituel du théâtre. Je crois que le théâtre est appelé à devenir un lieu de résistance devant toutes ces nouvelles façons de vivre. Et simplement, je veux encourager tout le monde, n'importe où, n'importe dans quelle ville, dans quel pays, dans quel endroit du monde, à aller au théâtre. Il faut aller au théâtre.
On a commencé par prendre des nouvelles de Kigali, on a fini à Princeton près de New York et à Madrid en passant par Bobigny où les voix se lèvent et vont s'écrire et s'enregistrer pour raconter les vies, les colères et la nécessité. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la technique ce soir, merci à Philippe Mercher et Nicolas Depagraf. On finira avec les mots de Lazare dans sa pièce Rabat Robert, c'est Ouria qui dit « Parfois, il me vient la nostalgie de la vraie vie idéale et pas du tout réalisable ». Vivre dans une prairie avec un soleil et une rivière. Il sera bientôt 21h, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de la fiction.
We met by chance, as people often do. But it blossomed, yes, it blossomed. Into something I never knew. Now, but it is in the past. They said it would never last. I'll not forget the moment that. Not June or November, but one.